Il fait beau. Je ne vais pas à la pêche. Je vais embrasser les arbres. J'aime embrasser les arbres. Je n'aime pas embrasser n'importe quel arbre. Il me faut d'abord choisir l'arbre que je vais embrasser. C'est trop dire. Le plus souvent, c'est l'arbre qui me choisit. Cependant, je me suis entouré de professeurs, de maîtres, d'enseignants, de connaisseurs. Spécialistes. Jean-François Clémence, Dominique Mention, Anneke Prasinha.
Anneke, avez-vous choisi le poème que vous allez dédicacer au bouleau ?
Je trouve que c'est ici comme dans un verger. Il n'y aura pas de fruits, mais quand même, il y aura quelque chose de plus beau. Boomhaard. Als ging nooit verloren het onbevangene. Gretig ruisend buigen voor wind. Duizend stelig prevelen. Eindelijk, eindelijk. Gestreeld door zomer staan bomen weerloos beloverd. Logenend het groen van vorig jaar. Spelen aardse duivels eeuwig leven voor? Verleid tot herhaling, als ging nooit verloren wat valt. Oud zeer in de grond gestampt. Heeft een boom geen weet wat hem bespringt? Is hij alleen een leven winterhard, niet groen? Rest hij in aarde onvindbaar? Zijn bomen bedrog?
Merci Anneke. Le bruit de fond que nous entendions était un mixte de chants du vent dans une pinède et avec en basse continue un avion qui devait passer là, comme ils sont assez nombreux à passer un peu partout. Monsieur Clémence, vous voilà bien pensif.
Un forestier pensait. Oui, c'est ce qui me satisfait ici, c'est que dans tous ces arbres qu'on a autour de nous, là, aucun d'entre eux n'a été prié de venir. Ils sont venus tout seuls. D'où ce mélange de pionniers comme le bouleau, hein, qui apparaît très rapidement sur des sols qu'on a déboisés. Et puis les sylvestres, les pins sylvestres qui se sont installés aussi dans le milieu de tout ça. Et puis très progressivement le hêtre qu'on voit s'installer aussi dans le sous-étage, hein, un petit peu plus bas. Et puis quelques chênes. Et là, la compétition a sérieusement démarré. Le bouleau qui pour l'instant est le patron des lieux, ne le restera pas.
Le porte-drapeau blanc.
Le porte-drapeau blanc de la jante sylvestre ne restera pas le vainqueur sur le terrain. Hein, petit à petit, les autres vont le rattraper, l'embêter, le dépasser et le faire disparaître. Mais c'est le destin du bouleau, hein, qui vient rapidement, qui colonise et qui disparaît. Ici, ce bouleau-là, vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui ont été coupés. On leur donne de l'air, hein, de la lumière, et avec un but bien précis, puisque les rameaux de ces bouleaux-là ont été utilisés pour faire des balais, qui balayent pour l'instant le bourg de Jupille.
On m'a dit que l'écorce était un médicament. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, qu'il y avait une sorte d'aspirine dedans, quelque chose qui calmait la douleur, dans l'écorce du bouleau.
Sur le saule.
Alex Alba,
le saule, oui.
Sur le saule.
Ah, c'est plutôt le saule. Oui. J'avais entendu le bouleau, mais en fait, c'est le saule.
Le bouleau, à cette époque, on peut lui brancher une petite perfusion inverse, puisqu'il va vous donner une partie de sa sève que l'on boit, j'en ai bu l'autre jour. Ce n'est pas un goût extraordinaire, mais c'est un breuvage très désaltérant.
Ah bon ?
Il y a sûrement des effets sympathiques, puisque je suis encore vivant depuis ce moment-là.
Tu as survécu.
Mais qui vous avez offert c'est une personne
Une amie qui est tout à fait intéressée par toutes ces pratiques de lien avec la nature.
Et elle-même donc considérait que c'était excellent pour la santé.
Je pense.
Oui. Et d'abord gratuit et immédiat.
Oui.
Et dites-moi, peut-être vous allez pouvoir donc satisfaire une de mes curiosités. Toutes ces connaissances que vous parliez un jour de génie paysan, Dominique Mention.
Oui.
Alors, toutes ces connaissances accumulées, elles sont tout de même liées plus ou moins au départ à des expériences. C'est-à-dire que pour savoir, par exemple, que tel arbre est bon pour cicatriser, par exemple, ouais. La sève de tel arbre est bon pour cicatriser, il a tout de même bien fallu qu'il y en ait un qui l'ait essayé.
Complètement.
Alors, est-ce que vous pensez que les sorciers de la préhistoire, les chamans, vous pensez qu'ils faisaient des expériences comme ça, qui tâtaient un petit peu de tout
Je pense qu'il valait mieux être celui qui faisait l'expérience que d'être le cobaye de l'expérience.
Celui qui subissait.
Comme oui, pour goûter un certain nombre de champignons.
Par exemple, oui, j'y songeais aussi aux champignons.
On collait, ça fait de la colle aussi, hein, la sève de bouleau. On a retrouvé des silex en manchet collés sur des bois avec de la sève de bouleau. Peut très bien imaginer que les gens se sont aperçus qu'en se coupant avec le silex, on cicatrisait plus vite que si quand on était en train d'utiliser du bouleau qu'autre chose. Toutes ces expériences-là, c'est empirique. Et les gens qui étaient un petit peu plus observateurs que d'autres, comme l'ont fait nos anciens ici, hein, rien n'est gratuit. Hein. On a cherché à utiliser au mieux ce qu'on avait sous la main. On a été chercher ailleurs.
Je pense qu'il faut surtout se situer dans une époque qui est non marchande. C'est-à-dire que c'était une question de survie. Et on n'avait pas ni les échanges, ni les savoirs pour aller acheter chez monsieur un tel produit.
Donc,
qui allait, donc le bouche à oreille, le fonctionnement, je veux dire, on savait par un tel que si on mettait ça, ça fonctionnait, qu'il lui l'avait expérimenté d'un autre ou lui-même, etc. Donc c'est tout cette espèce de brassage extraordinaire, toujours lié à une survie. Et ça, quand il faut survivre, l'imagination, le savoir, on le retient par nécessité. Et je pense que c'est ça, dans cette situation, qu'il faut essayer de... Ouais. Comme on revient, je pense, avec notre société, où on se rend compte que ces balais en plastique qu'on fait, par exemple, au lieu de les faire en boulot. On se rend compte que c'est fait avec du pétrole, que c'est importé de je ne sais pas où, que le plastique qui est usé au fur et à mesure, il finit dans les caniveaux, il finit dans les rivières, il finit au fond des océans. Et tout ça, on sait que c'est une impasse totale. Donc on va forcément revenir à des solutions d'intelligence et de survie de la planète, là, et non pas de l'individu lui-même. Et ça, c'est passionnant.
Et pour abonder ce que dit Dominique dans l'utilisation, ici, le bouleau n'est pas un bois essentiel, puisqu'on on avait autre chose, mais dans les civilisations du bouleau, où vraiment il y avait du bouleau et puis du bouleau. Je pense aux Nordiques, aux Amérindiens, ils ont utilisé le bois. Ici, faire un meuble en bois de bouleau, ça semble complètement irréel, alors que ça fait des meubles magnifiques, un peu fragiles, mais extraordinaires. L'écorce a fait des parois de canoë pour les Amérindiens, du papier pour écrire et faire du dessin. L'arbre a été utilisé au maximum de ses possibilités. On l'a moins fait ici parce qu'on avait autre chose.
C'était un excellent bois de chauffage pour les boulangers, avec une flamme bleue, enfin très rapide,
magnifique.
Qui était recherchée très vite.
Chauffe très vite le four. Donc on le recherchait, mais il fallait le... Alors là, bon, la sagesse populaire du coin dit, mais si vous voulez le garder, il faut le fendre pour que l'eau qu'il sèche, qu'il ne coille pas. Un arbre qui reste mouillé, il coille. Donc on le fend et ça fait un excellent bois de chauffage qui développe des calories rapidement, fait une belle flamme. Quand on a envie de faire une flambée dans une cheminée ou un insert qu'on a envie de regarder, c'est extraordinaire. Mieux que du chêne qui va pas vous faire des flammes aussi intéressantes qu'un bois de bouleau.
Dites-moi, j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait le stocker debout, c'est ça? Non?
C'est une manière de le faire se sécher. Vous pouvez le stocker comme les autres en l'ayant fendu. Il va aussi perdre son...
Et quand vous regardez les paysans autrefois, on voit encore ça dans la campagne de la Sarthe et d'ailleurs, les grandes branches, les grands rameaux posés verticalement le long des troncs.
Oui, oui.
Si vous posez vos rameaux à l'horizontale, ils vont courir. Si vous les posez verticalement, ils vont s'égoutter, ils vont durer comme ça pendant des lustres. C'est une question encore de savoir qui sont transmis.
Et... Petite bourrée de bouleau dans la cheminée, puis on allumait.
Eh bien, écoutez... Là, je suis extrêmement convaincu que c'est un arbre embrassable.
Ah oui.
Et ma chère Annick, en plus, il est blanc.
Il est blanc. Elle est comme une fillienne, tu ne trouves pas?
Comme si jamais perdu, la candeur, l'inclination de bruire sous le vent, nombreux mille murmurant. Enfin, 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 enfin. Et caressés par l'été, les arbres sans force, enfeuillés, renient le vert de l'an passé. Ces diableries terrestres cesseront-elles jamais? Provoquer la répétition comme si jamais perdu ce qui chute, vieux mot piétiné au sol broyé. L'arbre ne se soucie de ce qu'il remplace, il est une autre vie dure au froid, vert exclu, les restes en terre introuvables. Les arbres sont-ils tricheurs? Enfin, enfin, enfin.
C'était Les Embrasseurs d'arbres de Dominique Méhens, avec Anneke Brasinga, Jean-François Clémence et Dominique Mention. Poème d'Anneke Brasinga, musique de Francis Gorgé, à la technique Camille Méhens.